Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette avec vous, avec grand plaisir. Avant-dernière émission de la saison. Pour ces 30 prochaines minutes, l'émission C'est bon pour la santé que vous écoutez sur Canal M. Aujourd'hui, une discussion, on accorde ces 30 minutes à un sujet sensible, certes, mais essentiel. Je pense qu'il faut en parler, la santé mentale de nos adolescents, le suicide plus particulièrement, qui est, lorsqu'on y pense... On n'a pas l'impression que c'est tabou parce qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de regroupements. Mais lorsqu'on y réfléchit vraiment, oui, le suicide ici au Québec est encore tabou, encore plus ailleurs dans le monde. Probablement parce que la maladie mentale, qui est responsable souvent de ce mal invisible qui est la maladie mentale, c'est intangible. Hein? Et on a encore bien peu d'outils au quotidien, dans notre petite mallette de parents, de grands-parents, d'amis, pour intervenir et pour interréagir. Et lorsque le suicide concerne des enfants, des adolescents, de jeunes adultes, eh bien, ça nous semble encore plus irréel, plus incompréhensible. Je vous rappelle, parce que je pense qu'il faut le faire pour se mettre en contexte, qu'il y a environ 45 jeunes Québécois de moins de 19 ans qui mettent fin à leur jour. Un plus grand nombre, bien sûr, qui tentent de mettre fin à leur jour. Et en ce qui concerne les 20-34 ans, c'est plus de 200 personnes qui décident par suicide. Parmi les questions que l'on veut soulever, que l'on va tenter de soulever aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse un jeune à adopter des comportements suicidaires et également comment on peut arriver à survivre au décès par suicide de son enfant. Je vous présente à l'instant mes trois invités. Avec moi autour de la table, à ma gauche, Dr. Pascal Abadi, psychiatre à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Merci d'être là.
Oui, merci.
Également, Michel Pilon, il est devant moi. Michel Pilon, président du conseil d'administration du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, également un papa endeuillé. Et à ma gauche, Michel Brochu, professeur à l'Université de Montréal et maman endeuillée. Je voulais débuter avec vous, Michel Brochu, parce que vous êtes le déclencheur de cette rencontre, le déclencheur de cette discussion, parce que c'est suite à la lecture de ce témoignage paru sur le site de l'Université de Montréal que j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Un témoignage qui est intitulé « Comment survivre au décès par suicide de son enfant ». Vous parlez de la perte de votre fils en 2012, Maxime. Il avait 16 ans et vous nous dites assez rapidement que d'en avoir parlé à vos étudiants, à vos collègues, d'avoir eu des proches, ça a permis de vous reconstruire. Donc, d'en parler, ça a été rédempteur pour vous.
Oui, en fait, je trouve que c'est rédempteur, comme vous dites, d'en parler, mais c'est aussi pour que cette perte-là aille un sens, pour nous reconstruire et sensibiliser les gens autour de nous. Avant, j'aurais pas pensé que ça pouvait arriver dans la famille. Donc, on n'est pas au courant de ça et on est surpris. Et puis, je pense qu'on devient plus humble après un événement comme ça. Et plus les gens vont en parler, moins ça va être tabou. Et je pense que dans le cas de Maxime, il s'était autodiagnostiqué dépressif suite à une conférence qu'il avait eue à l'école. Et il a gardé ça à l'intérieur. Ça a fait une grosse boule. Et puis, c'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Pour lui, il est rentré dans un tourbillon. Et il ne voulait pas faire de la peine aux gens autour de lui. Donc, il ne voulait pas nous inquiéter. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il n'en a pas parlé. Puis, en fait, je suis pas mal certaine que c'est ça. Parce que Maxime nous a laissé 18 lettres au total où il a expliqué tout ça. Et il était très complice de sa sœur, avec qui il y a 2 ans de différence. Il lui racontait tout. Il était très proche l'un de l'autre. Mais ça, il n'en a pas parlé.
Oui. Et on y reviendra, mais peut-être aussi parce qu'il ne pensait pas avoir les ressources autour de lui pour l'exprimer, cette souffrance, ou les mots encore pour exprimer la souffrance. Et comment on trouve des mots pour exprimer ou comment on peut en discuter, on y reviendra. Michel Pilon, pour vous, ça s'est passé en 1999, donc il y a 17 ans. Votre fille Gabrielle avait 17 ans. Comme j'imagine encore, comme Michel Brochu, qu'on n'imagine pas que ça peut arriver dans notre famille.
Absolument pas. Alors, je suis absolument d'accord avec Mme Brochu. C'est à peu près la même chose pour nous. On n'a rien vu venir. Écoutez, Gabrielle semblait en bonne forme et plein de joie de vivre, mais en même temps, on a commencé à sentir dans quelques mois avant des changements d'humeur où elle était plus triste, ainsi de suite, mais elle gardait tout pour elle. C'est la même chose, elle ne voulait pas en parler. Il faut comprendre que chez les jeunes, parce qu'on parle de jeunes, 16-17 ans, la boîte à outils n'est pas très, très remplie. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. Ils ont une souffrance importante qui, des fois, pour d'autres, on va dire, ben c'est normal, hein, c'est l'adolescence, c'est des remises en question. Alors, on laisse aller, puis ça va, le temps va arranger les choses. Mais pour l'adolescente ou l'adolescent, le mal de vivre est tellement important. Et comme le dit Mme Brochu, on se demande comment ça se fait qu'elle n'a pas parlé, comment ça se fait qu'elle nous en a pas parlé. On se sent tellement coupable, on se sent... Pourquoi un parent, on n'a pas vu venir ça, elle n'a pas voulu venir nous voir, mais en fait... Lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est ça. Ils veulent pas en parler parce que pour eux, il y a pas de solution. Ils ont trouvé la solution et ils veulent pas nous faire de peine. Ils veulent pas nous engager dans leur spirale de souffrance. Alors, c'est un peu la même chose. Le pattern est à peu près la même chose pour nous.
Docteur Abadi, à 16-17 ans, époque très sensible de la vie, qui est l'adolescence, comment on peut dénoter des comportements suicidaires? Est-ce qu'on peut identifier certains signaux?
Alors, il y a des signes avant-coureurs qu'on connaît bien, hein, qu'il faut décrypter. Hein. Les parents le soulignent, il faut vraiment avoir une vision très attentive du comportement. Alors, ça peut être simplement par des propos. Là, c'est des comportements verbaux, hein, les comportements... Et les propos en lien avec l'envie d'en finir, il y en a marre, je veux arrêter tout ça. Alors là, c'est des propos indirects autour du suicide. Et il y a des comportements plus visibles, comme l'isolement social, par exemple. C'est particulièrement net avec les amis. Et nous, psychiatres, ça, c'est des comportements qui nous inquiètent. Un adolescent qui a 17 ans coupe les liens avec ses amis, c'est inquiétant. Un adolescent qui ne veut pas parler à ses parents, ça nous inquiète moins, parce que c'est l'époque aussi où c'est compliqué. En revanche, le lien social avec les pères, c'est extrêmement important. Il y a aussi des signes indirects comme la chute des résultats scolaires, par exemple, la fatigue permanente, la baisse des intérêts, bien évidemment, qui sont des signes qui nous inquiètent fortement.
Et parfois, il n'y en a pas de signaux. De votre côté, Michel Brochu, Maxime ne présentait aucun de ces comportements-là.
Non. Ben, écoutez, c'est un adolescent.
Oui.
Donc, il y a des hauts et des bas, comme dans tout le reste de la famille. C'est difficile de voir. Et ça, moi, je mettrais un bémol là-dessus. Parce que c'est des signes qu'on voit, en tant que psychiatre, on peut dire « Ah oui, c'est ça ». Mais vous imaginez si on affole tous les parents, aussitôt que l'enfant va avoir une petite déprime qui arrive à l'adolescence, on va se mettre à s'inquiéter. Donc, je pense qu'il faut être prudent, puis on analyse le résultat, c'est-à-dire on analyse la situation quand on a le résultat en main. Et l'exemple que je donne toujours, c'est une partie de hockey. Canadien-Boston. Les analystes vont vous dire 5-1 Canadien. Ça finit 4-2 Boston. Et là, le lendemain, quand on va dire « mais tu t'es trompé », ben ouais, mais j'avais pas pris en considération qu'un tel est blessé, que l'autre est en instance de divorce, donc il a moins bien joué. Donc, on va analyser la situation avec les résultats. Alors, je sais qu'il y a des signes. Et si on amène un enfant à l'hôpital, bien évidemment que là, les signes vont apparaître. Mais pour le parent, c'est lui donner une grosse responsabilité et c'est la culpabilité qui reste après. Donc, il faut faire attention, je crois.
Michel Pilon.
On parle des signes. Faut se remettre dans le contexte. C'est facile à voir après les signes. Mais au moment où on vit la vie de tous les jours, Gabriel, ouais. On voyait qu'elle se cherchait, différents changements de comportement, laisser son emploi, voulait changer son orientation scolaire, commencer le cégep, ainsi de suite. On voyait qu'elle cherchait, on voyait qu'elle était plus triste et tout ça. Puis, à un moment donné, elle nous a dit, c'est drôle, elle a dit, moi, je me vois pas dans l'avenir. Je me vois pas avec des enfants, avec une position. Puis ça nous a comme inquiétés. Puis là, on a dit, Gabi, il y a quelque chose, ça va pas. Là. Je pense que, qu'est-ce que tu en penses si on consulterait? Elle nous a répondu rapidement, non, il n'y en est pas question, je n'irai pas compter mes problèmes à qui que ce soit, je vais régler mes problèmes. Bon, on a dit là, j'ai dit, OK, on va attendre un petit peu, puis tout ça. Puis là, dans les jours qui ont suivi, il y a eu un changement. Elle était plus gaie, plus de bonne humeur. Puis là, elle s'est mise à revoir des anciens amis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tel, puis... Puis, la fin de semaine précédant son décès, elle a voulu passer un petit moment avec chacun d'entre nous. Avec moi, elle voulait que je lui montre comment conduire l'auto manuel. Elle a dit, papa, tu m'avais promis de montrer. Avec sa mère, elle dit, viens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été magasiné. Elle était bien, là, on voyait, là, avec son frère, viens, on va aller jouer au hockey dans le sous-sol, là, t'aimes ça, puis moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. Alors, on s'est dit, on a baissé la garde, on a dit, ah, peut-être que ça l'a réveillé. On a dit, ça l'a réveillé. Ils se sont rendus compte peut-être de ma souffrance, puis bon, ben là, ça va bien. Et le lundi matin, c'est enlevé la vie. Alors, ouais, quand on regarde ça par après, oui, puis ça, c'est une chose. Puis dans mon expérience, au niveau d'animation de groupe d'endeuillés, et ainsi de suite, c'est souvent quelque chose qu'on voit, un changement positif en dernier. Parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils appellent eux autres leur solution et ils sont libérés de certaines souffrances. Alors, ça, il faut faire attention. Si on est avec des adolescents qui, pour un bout de temps, ça va pas bien, puis on voit tout d'un coup que ça se met à aller bien, là, faire attention à cette situation-là.
Oui. En parler ou pas avec son enfant, Dr. Abadi, si on a des craintes? J'ai déjà entendu ça, si on parle de suicide, si on présente des cas de suicide à notre enfant, on pourrait semer des idées dans sa tête. D'autres se disent « non, il faut en parler ». Vous en pensez quoi?
Mon conseil aux parents dont je rencontre les adolescents en consultation, c'est d'en parler. Surtout d'en parler, parce que une des préventions... du suicide, c'est d'être attentif à l'autre. Être attentif à l'autre, c'est justement de poser la question qui nous inquiète.
Directement.
Je crois que... Et les études ne montrent pas que ça induit des comportements suicidaires. Au contraire, c'est la marque d'une attention portée. Et là, une attention portée, c'est quelque chose de rassurant. Donc surtout... S'interroger avec son enfant de nos inquiétudes et justement de ce sujet et de ces comportements suicidaires qui peuvent survenir. Il faut savoir que chez les adolescents, il y a plus de 40% de la population générale à cet âge-là qui a des idéations suicidaires. Donc c'est quelque chose de très, très, très fréquent. En revanche, on sait que si ça devient trop intense, là, il y a un risque de passage à l'acte. Donc, s'interroger par rapport à ça et interroger l'enfant ou l'adolescent par rapport à ça, c'est simplement lui montrer qu'on a repéré quelque chose.
Oui, et c'est une marque d'amour de nommer sa crainte envers son enfant. Oui.
Oui.
Absolument, excusez. Moi, je suis d'accord qu'il faut absolument en parler. Premièrement, ils n'ont pas besoin de se faire poser la question pour imaginer s'enlever la vie. Et comme le dit le docteur, se faire poser la question, si j'avais su tout ce que je sais présentement, D'ailleurs, on n'avait pas eu beaucoup de signes, on ne s'inquiétait pas de ça, mais quand même, j'aurais discuté avec Gabriel. Coudon, c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit? Sinon, elle m'aurait juste dit, ben non, papa, là, c'est pas si pire que ça, puis c'est correct. Si oui, peut-être elle aurait dit, ben enfin, on reconnaît ma souffrance, puis ça, peut-être il y aurait eu quelque chose. Et ce qui est plus important aussi, c'est d'en parler, que ce soit plus tabou, le suicide, puis que les jeunes, sinon, si le jeune n'a pas d'idée suicidaire, au moins, juste de discuter de suicide, et que ça se peut que chez des jeunes de 14, 15 ans, les idées suicidaires peuvent apparaître. Donc, ça protège aussi elle, mais ça peut protéger l'entourage. Elle peut repérer des fois, ben non, pas moi, mais c'est vrai que mon ami, peut-être qu'elle m'inquiète. Puis c'est comme ça, je pense, qu'on va, lorsque tout le monde va enlever ce tabou-là d'avoir peur, l'idée, mais toujours, il faut toujours travailler avec un certain filet de sécurité. Il ne faut pas inquiéter tout le monde non plus, mais il faudrait en parler pareil comme on parle de l'alcool au volant ou de la ceinture de sécurité. On en parle, puis on ne se pose pas de questions.
Oui. Ouais. Michel Brochu, dans l'une de ses lettres, Maxime a dit « J'aurais aimé te parler avant, te faire confiance, mais je n'avais pas cette habitude-là de m'exprimer. » Il n'avait pas trouvé les mots pour exprimer sa souffrance.
Oui, bien, en fait, Maxime, c'était quelqu'un qui était joyeux, qui avait des amis, mais il parlait pas, il n'a pas parlé de sa souffrance. Et puis ça, ce que vous dites, c'était à un de ses grands amis, il avait deux bons amis, et un des deux, il lui a dit, « Si j'en avais parlé, je serais peut-être avec vous aujourd'hui. » Donc, il était conscient de ça, mais comme s'il était trop tard. Que là, il avait entrepris toute une démarche dans sa tête parce qu'il a commencé à écrire des lettres au mois d'octobre et il est parti le 28 février. Mm-hmm. Donc, c'est long. Alors, c'est tout un processus et il avait analysé ça. Il était très rationnel. On a trouvé beaucoup de documents dans la poubelle de récupération parce que Maxime, c'était un enfant qui était très la sauvegarde de la planète. Donc, Et c'est comme ça qu'on a pu refaire qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête. Et c'est pour ça que je sensibilise les gens de ne pas garder ça, de s'exprimer. Et pour les autres qui écoutent, de ne pas faire ce que j'aurais fait probablement, parce que j'aurais dit, ben voyons, mon beau Max, tu es deux beaux blonds, tu fais de la musique, tu es sportif, tu as des amis, une famille qui t'entoure. Ben parce que moi, j'en voyais pas de problème. Les problèmes, puis il nous l'a écrit, les problèmes étaient à l'intérieur et non à l'extérieur. Puis il nous a dit, vous n'auriez rien pu changer. Mais le fait que les gens en parlent, ça peut aider, mais aussi qu'on soit à l'écoute, une oreille attentive, sans jugement et sans commentaire. Donc, on a appris et c'est ce que j'essaie de transmettre.
Jean-Sébastien, on va prendre une courte pause. Là-dessus, on vous revient dans une minute.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
De retour pour cette discussion sur comment survivre au décès par suicide de son enfant. Avec moi autour de la table, Dr Pascal Abadi, psychiatre à l'hôpital Rivière-des-Prairies, Michel Brochu, elle est professeure à l'Université de Montréal et maman endeuillée, Michel Pilon, présidente du conseil d'administration du Centre de prévention du suicide de la Naudière et également papa endeuillé. Dr Abadi, pendant cette pause, vous avez soulevé quelque chose de très important qui concerne vos collègues.
Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Mme Brochu, et puis justement l'importance de parler du suicide. Moi, je me suis aperçue au cours de ma pratique et au cours de la supervision des étudiants en médecine qui travaillent avec moi, que peu de professionnels étaient habiles pour parler du suicide parmi les médecins. Donc, il y a un certain nombre d'études maintenant qui montrent que... et c'est notamment le cas de l'Europe du Nord, hein, que lorsque les médecins généralistes sont formés au suicide et savent en parler avec leurs patients, les taux de suicide diminuent nettement.
Ah ouais.
Dans la population générale.
Ouais.
Moi, je voudrais insister sur le fait qu'on a peut-être cet effort à faire de diffuser et d'apprendre à parler du suicide à nos collègues médecins.
Apprendre aussi à vivre avec ce deuil par la suite. Dans vos deux cas, Michel et Michel, le couple a survécu à ce deuil, ce qui, bon, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais doit être beaucoup plus ardu. Il y a la famille aussi qui semble avoir été préservée. Comment on protège nos autres enfants? Comment on protège notre couple?
Au niveau du couple, effectivement, hein, on dit que je pense que plus que 50% des couples ne survivent pas à un décès d'un enfant par suicide. Alors moi, je trouve que dans notre cas, c'était l'importance de ne pas s'isoler. On était chercher de l'aide, on était dans des centres de prévention de suicide, on a participé à des groupes d'endeuillés, donc c'est très aidant d'aller chercher des réponses et ainsi de suite. Toujours important de respecter le conjoint. Évidemment, pas essayer de trouver un coupable chez un ou chez l'autre, comment tu as agi, c'est mort, évidemment, là, c'est l'évident. Mais aussi, ce qui est important, c'est de respecter où on en est rendu un et l'autre. Et ne pas dire, bon, écoute, là, ça fait 5 ans, tu devrais être rendu là parce que moi, je suis rendu là. Non, le respecter. Alors, il y a des choses que moi, par exemple, j'ai jamais... ça a pris 10 ans avant que je puisse regarder une vidéo de Gabi. Alors, les photos, ça ne me dérangeait pas de la voir en photo, mais la voir, parler, la voir, ça m'a pris 10 ans à regarder des vidéos parce que Gabrielle a fait plusieurs vidéos, faisait de la musique, et ainsi de suite. Mais Lorraine, ma conjointe, elle les a regardées au début, puis elle n'essayait pas de me dire, ben voyons, non, Michel, là, regarde-les, ça va faire du bien. On se respectait comme ça. Alors, c'est bien, bien important. Au niveau de la fratrie, Gabrielle avait un frère, avait 20 ans à ce moment-là, donc... faut toujours faire attention pour ne pas le délaisser non plus. Faut vivre notre peine, mais lui aussi, il a ses amis, il a sa vie qu'il mène, faut le respecter là-dedans. Alors, il a été d'un grand aide pour nous, en demandant pas qu'on s'occupe tellement de lui, là. Dans le fond, c'est lui qui nous a supportés bien souvent, donc c'est important. Donc, on est demeuré très, très unis là, par la suite.
Michel Brochu, vous êtes allé voir un show d'AC/DC.
Oui, on est allé en famille et mon neveu aussi est venu. C'était le groupe préféré de Maxime et il aurait aimé ça être là. Donc, on est parti. En fait, on est parti 6 pour aller voir ça. Et pour nous, ça a été aussi une façon de, je dirais, de voir l'importance de la famille, puis peut-être se rapprocher. Comme dans toutes les familles, on a des hauts et des bas, puis on essaie de faire le mieux. Et on essaie aussi, on devait partir en voyage avec Maxime, parce que les autres n'étaient pas disponibles quand il est disparu au début. Et l'année d'après, ben le crédit financier, on l'a repris, puis on est partis les 5 survivants ensemble. Et là, c'est ce qu'on essaie de faire, d'être les 5 ensemble.
Oui. Il y a aussi une façon de conserver la mémoire de votre fils. Et parce que le temps file, je veux vraiment qu'on l'insère pour donner des trucs peut-être aux parents, aux grands-parents qui nous écoutent. cette idée des petites boutures de plantes que vous continuez de donner autour de vous?
Ben, en fait, je veux que Maxime continue de survivre, mais aussi transmettre l'espoir. Quand Maxime était en troisième année, donc 2003-2004, il avait une plante araignée dans un projet d'écologie qu'il a gardée. Et un mois après la découverte de son corps inanimé, elle s'est mise à avoir des stolons, des petites fleurs et puis des bébés. Et moi, j'ai vu un signe, parce qu'après un décès, on cherche des signes. Donc, j'ai vu un signe que la vie doit continuer. Et j'ai commencé à prendre ces petites boutures, les faire pousser, les transmettre à ma famille, et ensuite aller aux proches. Et puis maintenant, j'en distribue pour que les gens gardent espoir. Il y a espoir. Donc, j'en transmets et j'en apporte pour vous aujourd'hui. Parce que c'est la vie doit continuer. Pour moi, c'est important. Donc, c'est un petit peu une maxime qui est partout.
Oui. Gabriel est partout aussi, Michel Pion.
Absolument. C'est évident. Madame Brochu parlait d'un voyage. Nous aussi, c'est un voyage qu'on a fait en famille. C'est un objectif. On appelle ça des objectifs bien-être, quelque chose qui nous fait du bien. On est parti en voyage avec François, son frère, l'année suivante. Donc, ça nous a fait un projet à monter pendant ce temps-là. Le temps passe et Gabriel est venu avec nous. On avait une photo au souper. On avait toujours la photo de Gabi avec nous. Maintenant, Gabi a fait partie. On a le deuil de Gabrielle à avoir fait, puis aussi le deuil de ce qu'elle aurait pu devenir. On a le privilège de côtoyer encore de ses amis qui ont maintenant des enfants, des positions. Qu'est-ce qui serait devenu avec Gabi, on ne sait pas. Mais maintenant, Gabi a fait partie d'un doux souvenir. Alors, Gabi, ce n'est pas juste le mois d'octobre 1999, ça a été 17 ans avant. Et maintenant, elle ne vieillit pas, elle a toujours 17 ans. Mais toujours avec nous, on en parle, on fait des soupers en son honneur et c'est comme ça. Comme on dit, la vie continue puis est encore avec nous. Donc, voilà.
Merci à vous deux pour vos témoignages qui, j'espère, retentiront dans d'autres familles. On laissera de notre côté des outils pour les parents, Centre de prévention du suicide en Estrie, Centre de prévention du suicide de la Naudière, pour lequel vous œuvrez, Michel Pilon également, Suicide Action Montréal, Tel Jeune, le réseau aussi pour lequel vous travaillez, Michel Brochu, je l'ai ici, vous travaillez, vous collaborez, Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés, des bouquins aussi, parce que des outils, Dr Abadie, on n'en a jamais trop. Hein. Et vous êtes là, ben, vous continuez à encadrer, je pense, à donner des conférences dans le cadre aussi de votre travail.
On propose des plans de sécurité pour les jeunes en collaboration avec les familles, ouais. Des thérapies spécifiques, bien évidemment, pour les comportements suicidaires.
Il faut continuer de le faire. Docteur Pascal Abadie de Rivière-des-Prairies, merci beaucoup. Michel Pilon, Michel Brochu, ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous en studio.
Merci à vous.
Merci.
Merci Jean-Sébastien. On se retrouve demain, nous. Portez-vous bien. Bye-bye.